Il n'est pas nécessaire d'avoir fait les grandes écoles pour se rendre compte que sur tous les continents et sur tous les fronts, la situation est chaotique. Injustice et abus sont le lot quotidien de la grande majorité des êtres humains, et l'instabilité est la norme, qu'elle soit économique ou politique ou les deux. Mais ce n'est rien comparé aux événements anarchiques qui prévaudront avant la tribulation, quand la plus grande confusion régnera à tous les niveaux, y compris dans le domaine religieux. Les gens de toutes les nations aspireront alors plus que jamais à voir paraître quelqu'un à la forte poigne, capable d'unifier des nations belliqueuses et de mettre de l'ordre dans un monde en déconfiture. Leur désir sera satisfait et trahi à la fois. Un dictateur s'élèvera et par la guerre imposera la paix. Mais elle sera précaire, car les peuples qui l'aura subjugué tenteront toujours d'échapper à la chape de plomb qu'il fera peser sur eux. Ce dirigeant mondial sera en fait le despote le plus puissant et le plus cruel d'une longue lignée de conquérants depuis Attila le Hun jusqu'au César romain en passant par Alexandre le Grand, ainsi qu'Hitler et Staline dans les temps modernes pour ne citer que les plus connus. Ce que tous ces despotes rêvaient d'accomplir, l'Antichrist le fera, et ses accomplissements religieux rivaliseront avec ses succès politiques. Il personnifiera ce que Satan a toujours désiré, s'élever à la place de Jésus-Christ et recevoir l'adoration. L'apôtre Jean est le seul auteur sacré à utiliser le mot « Antichrist ». Dans ses épîtres, il le définit au sens large du terme comme celui qui nie que Jésus est le Christ. Car, dit Jean, l'Antichrist est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur. C'est l'Antichrist. Il y a toujours eu des faux prophètes, des personnes se proclamant envoyées de Dieu pour apporter sa révélation. Mais dans les derniers temps, ces diseurs de mensonges vont proliférer. Ce que Jésus a d'ailleurs anticipé quand il a dit « Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux Christs surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Tous les faux prophètes de tous les temps sont des précurseurs de l'Antichrist qui fera son entrée sur scène au début de la tribulation. La description que nous en fait Jean dans le chapitre 13 est la plus détaillée et la plus saisissante de tous les auteurs sacrés. Cependant, il ne s'agit pas d'un enseignement nouveau, car plusieurs auteurs sacrés mentionnent l'Antichrist, dont l'apôtre Paul qui écrit qu'il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Le premier prophète à mentionner la venue de l'Antichrist est Daniel. Il le décrit comme l'autre corne plus petite qui surgit des 10 cornes et devant qui 3 des premières cornes furent arrachées. Je lis le passage. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête effrayante, terrifiante, et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elle surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette prophétie de Daniel, comme beaucoup d'autres dans les Écritures, a deux applications. La première concerne l'Empire romain tel qu'il apparaît dans les livres d'histoire. Au summum de sa gloire, il englobait totalement le bassin méditerranéen, la mer Noire, et s'étendait jusqu'au bord de la mer Caspienne. Les nations sous sa botte haïssaient les Césars, qui leur faisaient sentir leurs dents de fer, leurs griffes d'airain et qui les piétinaient. La deuxième application de la quatrième bête de la prophétie de Daniel concerne évidemment l'empire de l'Antichrist et lui-même. Ce sinistre personnage sera d'abord élu en toute légitimité, mais ensuite il prendra le pouvoir par un coup d'État par lequel il prendra la place de trois chefs et mettra les autres sous sa coupe. L'Antichrist est une personne parce qu'il est dit que sur cette corne il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Plus loin dans sa vision, Daniel dit aussi « Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et remportait la victoire sur eux. » À l'instar des empereurs romains, l'Antichrist instituera le culte de lui-même. Daniel écrit encore de lui qu'il sera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira, il se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le dieu des dieux. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Mais il vénérera le dieu des forteresses en son lieu. Insolent et animé par Satan, il s'insurgera même contre le prince des princes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien que dans le livre de l'Apocalypse, ce soit le chapitre 13 qui décrive l'Antichrist avec le plus de détails, il nous a déjà été présenté comme le meurtrier des deux témoins venus du ciel. Le texte dit que la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Dans le chapitre 12, on assiste à un conflit dans le royaume des cieux où Satan est vaincu, se fait expulser et jeter sur terre. Puis commence la longue guerre qu'il mène contre Dieu et son peuple, autant les Juifs que les fidèles du Seigneur. Dans le chapitre 13, Satan s'acharne avec furie pour empêcher Jésus-Christ d'instaurer son règne sur terre et tente d'établir son propre royaume sous la conduite de l'Antichrist. En apparence, Dieu le laisse faire et donne même à Satan carte blanche pendant la seconde moitié de la tribulation pour lui prouver qu'il n'est pas plus capable que les hommes d'établir un royaume universel viable. Je commence à lire le chapitre 13. « Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. » Verset 1. « Le mot pour bête ne désigne pas un animal domestique, mais une bête sauvage. » Ce mot, ce titre, a déjà été donné à l'Antichrist quand il a tué les deux témoins. La bête représente à la fois une personne et la confédération de nations qu'il dirige, deux entités indissociables, un peu comme Hitler et le Troisième Reich. Cette bête sort de la mer, c'est-à-dire des nations païennes. Assez curieusement, la description que fait l'apôtre Jean de cette bête est la même qu'il a faite précédemment de Satan quand il a dit « Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon énorme couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. » Dans les Écritures, les cornes représentent la force, parce que pour les peuples tournés vers l'agriculture et l'élevage, la corne du taureau est sa principale arme. Il s'ensuit que les 10 cornes, ornées de diadèmes, qui sont des couronnes royales, représentent 10 nations puissantes qui s'imposent par la force militaire. Plus loin, on apprend que ces nations existeront côte à côte et régneront avec l'Antichrist, mais sous son contrôle, car c'est lui le patron. Il est en effet certain que cet homme sera d'une grande intelligence, contrôlé par Satan, doté de pouvoirs surhumains. Orateur hors pair et extrêmement charismatique, il saura hypnotiser, voire ensorceler les foules qui le suivront comme des moutons sans trop se poser de questions. Les 10 cornes de la bête qui monte de la mer rappellent d'une part la description de Satan, comme j'ai dit, et d'autre part la quatrième bête que Daniel a vue surgir et qu'il décrit comme effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire, et qui avait aussi 10 cornes. Puis Daniel ajoute que les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs, il renversera 3 rois. Daniel prédit donc que l'Antéchrist, qu'il appelle une autre corne plus petite, se lèvera d'entre ces 10 cornes et en arrachera 3 pour prendre leur place. C'est un peu confus tout ça, mais il suffit de retenir que la bête que voit Jean qui monte de la mer et qui a 7 têtes et 10 cornes est équivalente à la petite corne de la prophétie de Daniel. L'Antéchrist régnera en maître absolu sur la confédération des 10 cornes aux nations, ou plutôt 7, puisqu'il en a remplacé 3. Puis, par la force, il conquérera le monde entier. Mais comme bien entendu, il se fera beaucoup d'ennemis, la paix qu'il imposera par les armes sera temporaire et des plus précaires. Dans la vision de la statue de Daniel, l'étendue des territoires soumis à l'Antéchrist ressemblera à un nouvel empire romain, mais en plus grand et en plus puissant. En tout cas, il dépassera de beaucoup l'ensemble des pays européens et inclura sans aucun doute le Moyen-Orient. La bête qui monte de la mer a 10 cornes coiffées de diadèmes, mais aussi 7 têtes. Les cornes représentent un ensemble de 10 nations. Quant aux 7 têtes, ce sont les dirigeants de la confédération sous la botte de l'Antichrist. Mais 6 de ces 7 têtes représentent aussi des empires terrestres qui ont existé et qui se sont succédés dans l'histoire. Il s'agit de l'Égypte, qui a été conquise par la Syrie, qui a été avalée par Babylone, qui a été avalée par la Perse Aléomède, qui a été avalée par la Grèce, qui a été avalée par Rome, qui s'est désintégrée. La 7e tête est l'empire de l'Antichrist, qui est une recomposition de l'Empire romain et aussi un amalgame qui contient en lui-même les autres empires qui ont dominé le Moyen-Orient. Dans la description du dragon, c'est-à-dire de Satan, ce sont les têtes qui sont ornées de diadèmes. Elles représentent 7 grands empires ennemis d'Israël, 6 qui ont déjà existé et le 7e qui est celui de l'Antichrist. Dans la bête qui monte de la mer, les diadèmes sont sur les 10 cornes qui représentent 10 nations sous la botte de l'Antichrist. Ensuite, Jean dit que les têtes de la bête portent des titres insultants pour Dieu. Au 1er siècle, on a commencé à rendre un culte aux empereurs romains et à leur attribuer un titre divin. Il va sans dire qu'une telle pratique est blasphématoire à l'égard de l'Éternel, le Dieu unique et vrai. Les 10 chefs à venir, qui deviendront 7 plus l'Antichrist, exigeront aussi qu'on les honore comme des dieux et pourchasseront à mort ceux qui refuseront de les reconnaître comme tels. Ces 7 chefs suivront l'exemple de leur maître satanique que l'apôtre Paul appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je continue maintenant le chapitre 13. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Verset 2. Comme je l'ai dit, cette bête qui monte de la mer est à la fois l'Antichrist et son empire, qui est une sorte d'hybride constitué de 3 animaux différents, un léopard, un ours et un lion. Or ici encore, ils correspondent, du moins en partie, à la vision du prophète Daniel qui écrit que 4 bêtes énormes différentes les unes des autres surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Et voici que surgit une 2e bête ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Fin de citation. Chacun de ces monstres représente un empire et ils sortent de la masse humaine en se succédant l'un à l'autre. Dans la statue du rêve de Nabuchodonosor, ils sont représentés par l'or, l'argent et le bronze, et le fer mêlé d'argile. Je rappelle ce passage où Daniel a dit à Nabuchodonosor, « Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérisé, écrase tout et le met en pièces. Ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine. » Fin de citation. Les animaux mentionnés par Daniel symbolisent des empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Ils sont différents car chacun a sa propre personnalité. Le lion est le roi et le plus noble des animaux. Il est réputé pour sa puissance de brute. En très peu de temps, les armées babyloniennes ont écrasé les forces assyriennes et égyptiennes, puis conquis la Palestine. Le deuxième animal que voit Daniel est l'ours, un animal puissant à cause de sa taille. Il représente l'empire mède et perse, qui devint plus étendu que celui de Babylone. Les trois côtes dans sa gueule sont une image des vastes conquêtes de l'empire mède et perse dans les trois directions, nord, sud et ouest. Le troisième animal est le léopard. Particulièrement agile, il peut subitement faire de très grands bonds. En 4 ans environ, Alexandre le Grand a conquis la totalité de l'empire perse, dont la Babylonie et l'Égypte, où il fonde Alexandrie. Ensuite, il s'étend jusqu'aux Indes. Après avoir comparé les trois premières bêtes qu'il a vues à des animaux d'un zoo, le lion, l'ours et le léopard, Daniel mentionne la quatrième bête qui était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée, dit-il. Comme cet animal ne ressemble à rien de connu, Daniel n'essaye ni de l'identifier, ni de lui donner un nom, mais, comme je l'ai déjà dit, on sait qu'il s'agit à la fois de l'Empire romain historique et de l'Empire romain reconstitué par l'Antichrist à la fin des temps. Dans sa vision, Daniel énumère les empires dans l'ordre chronologique de leur apparition sur la scène internationale et il en voit 4. Jean, qui regarde en arrière, n'en voit qu'un, le 4e de la vision de Daniel, l'Empire de l'Antichrist, mais qui comporte aussi des éléments des 3 empires qui l'ont précédé, la Grèce, les Mèdes et les Perses et Babylone. Jean décrit ce 4e animal, l'Empire romain reconstitué, en commençant par le léopard parce que l'Empire grec était le plus récent avant la Rome antique. Il avait conquis les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire l'ours, eux-mêmes ayant conquis Babylone, représenté par le lion. L'Empire romain reconstitué de la fin des temps sera fort, féroce, brutal et rapide comme l'ont été Rome, la Grèce, les Mèdes et les Perses et Babylone. Ce sera le dernier empire de l'humanité et le plus puissant de tous, et l'Antichrist le dirigera avec une poigne de fer, avec la même autorité dictatoriale et absolue que Nabuchodonosor.